Quel est ce monde incroyable qui vit au cœur de notre corps? Le microbiote est un sujet d'étude passionnant, tant pour notre santé au quotidien que pour notre capacité à bien vieillir, mais aussi faire du sport et performer si on le souhaite. Vous découvrirez ainsi dans cet épisode que nous sommes microbiens et que certains athlètes ont, semble-t-il, un microbiote qui favorise la performance. Et surtout, vous comprendrez pourquoi et comment prendre soin de votre microbiote. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et je pars ainsi à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive, dans le but que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir mieux, bouger mieux, réussir nos défis et devenir champion et championne du monde de notre monde. Allez, c'est parti! Et donc aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu spécial puisque j'ai deux invités que j'avais eus séparément. Anthony Berthou est nutritionniste, ancien athlète de haut niveau en triathlon. Il était nutritionniste de plusieurs équipes olympiques. Julien Scanzi est lui hépato-gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand et auteur d'un livre passionnant, Incroyable microbiote. Je les avais eus séparément dans le podcast sur plusieurs épisodes et j'aurais proposé de venir échanger ensemble sur le lien entre microbiote et sport. L'idée de cet épisode est d'explorer avec ces deux spécialistes du domaine ce qu'est le microbiote, ce qu'apporte un bon microbiote, ce que c'est un bon microbiote aussi, ce qu'il peut apporter aux sportifs, mais aussi ce que le sport apporte aux microbiotes et les liens positifs, mais aussi les liens qui peuvent être négatifs. Et je voulais aussi explorer la piste de comment chouchouter notre microbiote pour être en forme au quotidien, nous sentir bien physiquement, mentalement, mais aussi nous sentir bien et prêt dans l'optique de performer. Et vous allez constater qu'il y a des choses qui paraissent simples car ancestrales et qui sont pourtant très efficaces et qui sont la base de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre corps depuis très longtemps. Et qu'une fois encore, le prisme du microbiote vient questionner notre mode de vie et nos habitudes. Et je dois aussi vous dire que c'est un sujet si passionnant et si large que nous avons décidé au cours de l'épisode de le scinder en deux. Aussi, certains conseils, certaines questions que nous avions prévues et commencé parfois à esquisser un petit peu seront complétées et abordées dans un futur épisode où ils reviendront tous les deux à peu près dans un mois. Alors si cet épisode vous inspire des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi sur Instagram, @BertrandSoulier, ou en commentaire de l'épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify. Allez, c'est parti! Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Bonjour,
les deux.
Bonjour Bertrand et Anthony.
Bon, aujourd'hui je suis un petit peu impressionné messieurs, parce que alors Anthony Berthou et Julien Scanzi dans la même salle de discussion pour parler d'un sujet microbiote et sport. Je vais prendre mon petit cours pour apprendre plein de choses. Parce que vraiment, je vous ai eu tous les deux en séparé dans des épisodes différents. On avait parlé de certains sujets, de nombreux sujets. J'ai un petit peu potassé, j'ai un petit peu regardé les livres et tout. Hein. Mais moi je suis prêt à apprendre énormément de choses. Alors, par contre, pour tous ceux qui n'auraient pas encore la connaissance de qui vous êtes, je vais vous demander de vous représenter. Comme ça, en plus, on va pouvoir repérer les voix. Alors, on va commencer par Anthony. Comme ça, on va repérer la voix d'Anthony. Et ensuite, on passera à Julien. Allez, c'est parti.
Eh ben, bonjour. Alors, pour me présenter rapidement, je suis nutritionniste. Et puis, on va parler d'un sujet que je connais bien, qui est la notion de la nutrition du sport. J'ai eu l'occasion de suivre pas mal d'équipes de France, d'athlètes de haut niveau. J'ai moi-même eu un passif d'athlète de haut niveau. Donc, voilà, on va essayer de rentrer dans ce cœur du sujet et je suis vraiment ravi de faire ce moment d'échange entre tous les deux, avec toi Julien et Bertrand, donc je pense que ça va être un moment très sympa.
Julien.
Eh bien donc, à moi de me présenter, bonjour à tous, Julien Scanzi, et donc moi je suis gastro-entérologue depuis un peu plus d'une dizaine d'années en Auvergne, donc à Clermont-Ferrand, et dans un petit au CHU de Clermont et dans un petit hôpital à Thiers. Je soigne toutes les maladies du tube digestif et du système digestif dans son ensemble et je m'intéresse particulièrement au microbiote intestinal, hein, je crois que ça va être un peu la thématique du jour. Depuis une dizaine d'années, je suis rentré dans ce monde microbiote intestinal en fait par son cas un peu le plus extrême qui est la transplantation de microbiote fécal en fait, une procédure qui consiste à guérir ou en tout cas traiter quelqu'un qui a une maladie liée à son microbiote en lui transférant le microbiote d'un sujet sain. Donc moi, j'ai été l'un des premiers Français à faire ça il y a une dizaine d'années et j'ai pu voir l'incroyable pouvoir de notre microbiote. Et donc depuis, j'en apprends tous les jours et j'essaie de sensibiliser un petit peu le grand public sur le fait qu'on est microbien et qu'il faut préserver nos microbiotes si on veut rester en bonne santé, vieillir bien et être le moins malade possible, quoi.
Ouais, alors on parlera, et j'ai gardé une question sur la transplantation, parce que je suis un peu taquin quand même dans l'esprit, et je crois que je l'avais un peu posé la question, et j'ai demandé en plus à un autre invité un jour, sur un petit peu de savoir si on pourrait pas aller au plus que dopage, enfin je sais pas sous quelle forme on pourrait aller, mais parce que c'est fait partie des pistes. Alors je sais plus quel sportif j'avais pris en référence, mais est-ce que par une transplantation tu serais capable de nous transformer en Kylian Jornet? Alors moi j'attends la réponse à la fin, mais après Anthony tu auras le droit de donner ton avis bien entendu aussi avec ta vision des choses, parce que tu as fait de la compétition de très haut niveau et tout en plus, donc tu sais ce que c'est en plus les questions de vouloir performer absolument et tout, et on voit en plus. On parle beaucoup du sport pro, mais chez les amateurs aussi. J'ai vu une course en Espagne il n'y a pas longtemps, ils ont tous abandonné quand on leur a dit qu'il y a un contrôle antidopage à l'arrivée. Donc, on sait quand même que les gens vont les gratter un petit peu. Mais on va garder cette petite question pour la fin. Avant, on va quand même faire un petit rappel sur ce qu'est le microbiote. Et Julien, toi, tu dis un truc, c'est que nous sommes tous microbiens. Alors, pour en savoir plus, bien sûr, dans l'épisode de podcast, on en avait parlé pour aller plus loin dessus. Mais en quelques mots, pour nous rappeler en fait pourquoi tu dis ça et à quoi sert le microbiote?
En fait, on n'est pas seulement humain, on est fait également de bactéries et d'autres micro-organismes. Et en fait, tous ces micro-organismes-là, donc des bactéries, des virus, des levures, des champignons, des archées, etc., tous ces micro-organismes vivent en nous et sur nous dans des écosystèmes qu'on appelle microbiote. On a tous entendu parler à un moment de flore intestinale. La flore intestinale, c'est le microbiote intestinal, c'est ce monde microbien qui vit dans nos intestins. Et rien que dans nos intestins, on a 40 000 milliards de bactéries. Dans 1 gramme de caca, on a 100 milliards de bactéries, donc plus que d'êtres humains sur Terre. Donc oui, on est microbien. Et au-delà, si on regarde même maintenant au niveau de l'ADN, de la génétique microbienne, eh ben, l'ADN microbien, il est au moins 100 fois plus important que notre ADN humain en quantité. Donc on est microbien, on le sait maintenant, il faut faire avec. Et puis surtout, la nature fait pas les choses par hasard. Si on est fait d'autant de microbes, s'il y a autant de microbes en nous, sur notre peau, dans notre bouche, dans nos intestins, dans le vagin des femmes, etc., c'est pas pour rien, c'est parce que ces microbiotes contribuent au fonctionnement de notre organisme et au fait de nous maintenir en bonne santé. Et quand ça va moins bien, quand il y a un déséquilibre de l'un de ces microbiotes, notamment du microbiote intestinal, eh ben on peut être confronté à l'apparition de maladies chroniques ou de maladies aiguës, etc. Ça, la science ne fait que le montrer de jour après jour avec énormément de publications qui sortent depuis une quinzaine d'années à peu près.
Là, j'ai repris ton livre, Anthony, le traité de traité de la pleine santé pour l'alimentation durable. Je sais pas pourquoi je voulais appeler ça philosophie, parce que je trouve que peut-être qu'on avait parlé que c'était une sorte de philosophie de vie, ton livre. Non, enfin, je sais pas si on peut le présenter comme ça. En tout cas, moi, je le voyais vraiment comme ça. Et donc, tu en parles du microbiote dans ton livre. Il y a des larges passages, il y a des études. C'est un sujet que tu connais aussi très bien. Et c'est vrai que j'ai vu l'autre jour des discussions de gens qui disent, ouais, mais le microbiote, on le met un petit peu à toutes les sauces. On lui fait un peu tout porter tout sur lui, etc. Alors, toi, c'est quoi ta vision, toi, du microbiote et pourquoi on en parle autant?
Je partage totalement celle de Julien. Effectivement, tu parlais du livre. C'est pour moi un des 7 piliers nutritionnels, on va dire fonctionnels majeurs. On peut parler de l'immunité, des mitochondries. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de parler du lien qui peut exister entre le microbiote et les mitochondries. Donc, c'est un pilier qui est absolument indispensable. Et de là à considérer qu'on le met un peu trop en valeur, je pense pas. Je crois qu'au contraire, on est juste au balbutiement des liens qui peuvent exister. Et, moi, j'aime beaucoup parler également d'holobionte, c'est-à-dire d'interaction entre le microbiote, l'hôte et l'environnement dans lequel il évolue. Et là, je pense qu'on est vraiment au tout début de la compréhension. Donc, je pense pas qu'on le surestime, plutôt au contraire. Mais dans une vision très écosystémique, de se dire finalement quelle est la place du microbiote dans son système, c'est-à-dire notre interaction, nous, avec ce microbiote, mais encore une fois avec l'environnement, l'alimentation, mais aussi les contaminants, l'activité physique, on va en parler. Et je pense que là, on a au contraire beaucoup de choses encore à découvrir. C'est passionnant.
Ouais. Et comme on l'avait dit en plus, quand on avait parlé déjà de tes 2 livres. Il y a un côté aussi avec l'écologie, la planète, ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Tu parles aussi des contenants, les gamelles avec lesquelles on fait la cuisine. Enfin, C'est là aussi où on voit toutes les interactions, c'est-à-dire que on voit à quel point tout est relié et que toutes les grandes préoccupations mondiales, j'ai envie de dire, sur l'issue de la planète en elle-même, redescendent jusqu'au cœur de nos intestins.
Tout à fait. J'aime beaucoup dire qu'on est une planète dans une planète. C'est-à-dire qu'on a notre propre écosystème, donc avec le microbiote et, comme le précisait très bien Julien, pas uniquement les bactéries, mais un ensemble de micro-organismes. Et nous, on est un organisme dans un système beaucoup plus vaste. Et j'aime beaucoup ta façon de présenter le livre quand tu parlais de philosophie, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le sens, c'est de se dire quelle signification systémique globale on peut donner à l'acte alimentaire. Et aujourd'hui, on a tellement saucissonné un petit peu les spécialités qui font qu'on va s'intéresser, alors, microbiote si on parle de ce sujet, mais à la nutrition de manière générale. On va s'intéresser d'un point de vue toxicologique aux contaminants, mais on va pas faire le lien entre les deux. On va s'intéresser à l'écologie, mais sans faire le lien avec les autres. Et ce que j'ai essayé d'apporter, c'est vraiment cette vision globale. Et pour le coup, le microbiote répond complètement à cette philosophie, puisqu'on est dans une logique d'organisme vivant qui va interagir avec nous de manière extrêmement systémique. Et tu parlais des ustensiles ou des contaminants. Là aussi, on pourrait en faire, je pense, tout un podcast sur le sujet. On a quelques données qui montrent, notamment via certains émulsifiants qui sont utilisés en additif dans l'industrie agroalimentaire qui altèrent notre microbiote. On a les pesticides, notamment le glyphosate. On considère que environ 54% des bactéries du microbiote sont sensibles à la présence de glyphosate. Et malheureusement, on va en avoir dans notre environnement par les méthodes de culture, mais de se dire qu'on n'aurait aucune molécule de glyphosate qui pénétrerait notre organisme, c'est une vision malheureusement un peu utopique. Donc on a des interactions effectivement avec les contaminants extérieurs et notre monde intérieur. Et ça mériterait beaucoup de développement pour le coup.
Ouais, et tu vois, et alors là, ça m'intéresse parce que ça m'amène au métier de Julien, en fait. Le premier chapitre de ton livre, Anthony, tu parles que le réductionnisme, tel qu'on l'a étendu un petit peu parlé, ce côté de tout séparer, de tout trancher en petits morceaux, et on en parle dans l'alimentation, dans plein de choses, bah, c'est une vision galvaudée, hein, c'est ce que tu dis dans ton livre. Et je me demande, Julien, tu vois, toi, à quel point, quand tu as quelqu'un qui vient te consulter, et toi, tu as en spécialiste du microbiote, c'est quoi le rôle d'un médecin comme toi? Sur quoi tu vas interagir, agir, enfin plutôt agir, pour arriver à aider tes patients?
Oula, compliqué comme question. Alors,
ouais, je sais.
Effectivement, il va falloir exercer une médecine telle que je n'ai pas forcément appris pendant les 10-12 ans de faculté, où il ne faut pas se mentir, on apprend quand même à exercer une médecine assez allopathique, assez réductionniste sur chaque spécialité, qui est très beau sur une maladie, d'avoir un diagnostic et ensuite de mettre le traitement le plus souvent médicamenteux, le plus adapté à ce diagnostic, à cette maladie. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, puisque en fait, on est un ensemble d'écosystèmes, à la fois humains, à la fois microbiens. Nos organes sont tous liés les uns avec les autres. Il y a des choses qui, et notamment le microbiote, qui participe à ces interconnexions. Hein, on dit que le microbiote et l'intestin, c'est le deuxième cerveau, mais pas seulement, ça interagit avec le système immunitaire, avec le système hormonal, avec beaucoup de choses. Et moi, j'essaie d'avoir une approche un peu plus globale, un peu plus holistique. Et très souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent par hasard, ou en tout cas, très souvent, on retrouve actuellement dans les gens qui ont des maladies chroniques, quand même très souvent un mode de vie qui n'a pas été sain et pendant très longtemps. On sait que la sédentarité, on sait que la malbouffe avec une alimentation très calorique, très riche en sucre, très riche en additifs, dont les émulsifiants, comme a parlé Anthony, tout ça altère le microbiote intestinal. On a dit le stress, la sédentarité sont tout un tas de facteurs qui altèrent le microbiote intestinal avec un impact très négatif, mais également énormément d'autres choses. Et en fait, l'idée, très souvent, au-delà de mettre le nom sur, de mettre un diagnostic et d'essayer d'accompagner le mieux possible avec parfois des traitements médicamenteux, mais c'est également de proposer une modification du mode de vie vers quelque chose qui sera plus apte à une meilleure santé. Hein, Hippocrate disait que notre première médecine, c'était notre alimentation. Et beaucoup de choses partent de là. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un petit peu ce que l'on mange et ce que notre organisme en fait.
Donc l'idée, c'est de revenir sur des choses plus sains, un mode de vie plus sain, avec une activité physique régulière, avec un peu moins de stress, avec une alimentation saine, qui soit la plus naturelle possible, la plus riche en fibres, la plus assez plus végétale qu'elle l'est actuellement, et surtout avec le moins d'additifs, des aliments les moins transformés possibles, prendre le moins de médicaments non indispensables possibles. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que j'essaie de soulager les gens, d'améliorer leur santé, c'est en prenant en compte ce qu'ils sont à la fois au niveau humain, mais également microbien, et puis de revenir sur des choses, un mode de vie plus sain. Alors, ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'on a envie, quand on va voir son docteur, on a envie qu'il nous prescrive le bon traitement et puis que tout soit réglé en 2-3 semaines en prenant un comprimé matin et soir. Mais sauf que parfois, la maladie qu'on cherche à traiter, c'est quelque chose qui est dû à un mode de vie défavorable qu'on a eu pendant plusieurs années. Et malheureusement, la pilule miracle qu'on prendrait matin et soir pendant 3 semaines, elle n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner les gens vers un mode de vie plus sain.
Est-ce que dans la pilule non magique, c'est-à-dire les bonnes habitudes et tout, il y a un domaine qui nous intéresse avec Anthony, c'est la partie sport, mouvement. À quel point ça joue sur le microbiote, et en bien comme en mal en fait. Parce que moi, j'ai toujours un petit peu le truc de me dire, quand on fait du sport, on peut quand même mettre un très gros stress sur notre corps. On voit quand même qu'il y a quand même des gens qui deviennent malades à cause du sport. J'en ai fait un épisode avec Denis Richer sur le sujet. Il disait que le sport pouvait être le meilleur moyen de rendre malade quelqu'un qui est en très bonne santé au départ. Mais si on pousse trop loin la machine, il y a un moment donné, il y a un truc qui ne se fait pas. Mais est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, quelque chose comme ça, dans le mouvement qui jouerait sur avoir un... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un bon microbiote, parce que moi, j'ai mis bon microbiote dans mes fiches, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, vous me direz. Mais en tout cas, bien s'en occuper. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
Alors, je vais débuter la question, puis enfin la réponse surtout, et puis Anthony nous dira son approche. Lui, il a plus d'expérience sur l'accompagnement des sportifs, notamment de haut niveau. Moi, je pense qu'effectivement, le sport peut être délétère chez certaines personnes, mais chez 99% des gens, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, dans la très grande majorité des cas, le sport et l'activité physique, quelle qu'elle soit, elle est bénéfique pour notre santé, mais également, les études montrent qu'elle est bénéfique, elle a un impact positif sur le microbiote intestinal. Que vous marchiez régulièrement, 30 minutes par jour, que vous fassiez... des sorties, des courses plus longues de 10-20 bornes, voire des marathons, que vous fassiez du cyclisme, que vous fassiez de la musculation, etc. Cette activité physique, peu importe le niveau d'intensité, pour la grande majorité des gens, elle sera bénéfique. Après, effectivement, elle peut être délétère, mais on sera très souvent dans des cas extrêmes d'exercice avec une haute intensité, une très haute endurance, on sera dans des choses, dans l'ultra trail, peut-être le marathon ou au-delà du marathon, et notamment chez des gens qui ne seraient pas forcément préparés à ça et qui n'auraient pas les réserves métaboliques, les réserves microbiennes peut-être, parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler. Le microbiote participe également aux performances sportives, etc. Enfin, il y a des liens entre les deux, mais globalement, l'activité physique, ce qu'il faut retenir, le message à passer, c'est que elle est dans 99,99% des cas bénéfique au microbiote intestinal et à notre santé globale. Ça, c'est clair. Après, c'est dans certains cas particuliers, chez voilà des gens qui n'auraient pas les bonnes réserves, qui iraient au-delà de leur capacité, qui se mettraient dans un mode d'épuisement, etc., où là, effectivement, l'activité physique intense peut altérer le microbiote, et notamment, ça peut altérer les parois de l'intestin par des phénomènes d'ischémie et perfusion, ça augmente la perméabilité de l'intestinal, ça laisse passer plus de toxines qui entraînent de l'inflammation, et on peut le voir, il y a des exemples, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui courent, qui t'écoutent, qui connaissent un peu Yohann Diniz, qui ont envoyé très souvent... avoir des gros problèmes de diarrhée et de saignement lors de ses courses, lui allait visiblement au-delà de ses capacités, de son système digestif et intestinal pour gérer tout ça. Et donc, on peut avoir du coup un effet délétère.
Oui, alors je complète un petit peu par rapport à ça. Et alors, Bertrand, par rapport à cette notion-là qui était évoquée par Denis, je pense que ça nous ramène énormément au principe hormétique qu'on a aussi beaucoup développé dans les précédents podcasts, c'est-à-dire que effectivement, la question est de savoir jusqu'où on place le curseur de l'adaptation, de l'adaptabilité, pour en dire au sens positif du terme, Et à partir de quand ce curseur peut être délétère et amener à des troubles fonctionnels, voire à des pathologies, à de l'épuisement ou autre. Et c'est vrai que par définition, le sport, l'activité physique, est un stress cellulaire, un stress métabolique. Maintenant, il se veut positif, comme tu le dis très bien, Julien, dans la très, très grande majorité des cas, parce que on est aujourd'hui dans une situation de sédentarité, voire de sportif sédentaire, qui est encore une autre définition. Et donc, on a besoin de se mettre en mouvement beaucoup plus que la plupart des personnes aujourd'hui. Après, dans le cas du sport, effectivement, on va rentrer dans une logique d'optimisation des capacités. Et parfois, on va aller toucher avec la frontière de la désadaptation. On va même volontairement se mettre en désadaptation. On parle d'overreaching, on a une terminologie anglo-saxonne à ce niveau-là pour les planifications d'entraînement. Avant des échéances, on parlait d'athlètes de haut niveau. On va aller créer cette désadaptation volontairement pour espérer une hyper-compensation à un moment donné. Et plus on va l'être sur du haut niveau, plus la frontière va être ténue et on peut basculer à un moment donné vers une désadaptation qui sera plus fonctionnelle en tant que telle. Et tu le précisais très bien, Julien, et c'est ce que je voulais introduire, c'est-à-dire que je pense que la question du microbiote doit être élargie quand on parle de pratique sportive à cette notion d'écosystème intestinal et de trépied entre la muqueuse intestinale, le système immunitaire au niveau intestinal et le microbiote. Les trois interagissent en permanence et on sait qu'une altération d'un des éléments du trépied va avoir des conséquences sur les deux autres. Et par rapport à cette notion d'ischémie-reperfusion, effectivement, quand on va réaliser un mouvement musculaire, on va redistribuer le volume sanguin au détriment du système digestif, d'où la terminologie d'ischémie qui peut atteindre jusqu'à 80% de la valeur de repos chez un coureur à pied notamment, ou un sportif d'endurance ou autre, hein, d'ailleurs, mais je reviendrai dessus parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à évoquer. Et une fois qu'on arrête cette activité, on va avoir une reperfusion, c'est-à-dire un retour du volume sanguin, et l'intestin va être fragilisé par cette répétition de mécanismes, ce à quoi se rajoute, dans le cas de la course à pied, l'onde de choc mécanique par la foulée. Et quand on prend les épreuves d'endurance, chez les coureurs à pied, on estime que la prévalence des troubles digestifs, que ce soit au niveau haut ou bas, donc plutôt gastrique ou intestinal, est 30 à 50%. Quand on monte vers du trail ou des épreuves plus longues, on va monter jusqu'à 60-70%. Sur les épreuves d'ultra, on a jusqu'à 85% des sportifs qui vont souffrir d'un trouble digestif à un moment donné au cours de leur pratique, donc pendant la compétition, mais aussi en périphérie. Et une dernière notion à préciser, à mon sens, qui est importante à ce niveau-là, c'est que cette notion d'hyperperméabilité que tu as évoquée, Julien, qui est pour moi au cœur du sujet chez l'athlète, notamment par rapport à l'émergence de troubles inflammatoires chroniques, notamment extra-digestifs, n'est pas forcément associée à une symptomatologie au niveau digestif. C'est-à-dire qu'on a des sportifs qui n'ont aucun souci digestif à l'effort, mais qui présentent cette hyperperméabilité parce que de facto, elle est induite par la pratique. Et donc, il ne faut pas simplement se dire « bah, je vais bien au niveau digestif quand je cours », ou après, donc, c'est que cette situation ne me concerne pas. Je préfère parler de situation que de problème parce que ce n'est pas un problème. Il faut juste l'intégrer dans la réflexion et notamment dans l'accompagnement nutritionnel qu'on va mettre en place derrière.
C'est des questions, en plus, la nutrition, qui sont très compliquées chez les sportifs parce qu'il y a les questions de ce qu'on doit manger pour nourrir son corps, pour mettre du carburant, les notions de construire le corps, les notions aussi de ce qu'on peut supporter. Tout à l'heure, on parlait d'ischémie, mais c'est vrai, quand on dit les coureurs... Il y a beaucoup d'abandon quand même. Hein. Tu disais 85% sur des distances qui ont des problèmes ce niveau-là. Moi, j'ai vu des chiffres sur l'ultra trail. C'est quand même l'une des grosses sources d'abandon quand même. Hein, quand on est vraiment sur des grosses problématiques. Et c'est toujours la question que je me disais, c'est est-ce qu'il y a des choses qui seraient bonnes pour le microbiote et pas bonnes pour le sportif et inversement. Tu vois, comment on peut le prendre un peu cette histoire-là, parce que en plus, on voit plein de produits. Tout à l'heure, on parlait des produits naturels et tout, mais on voit plein de produits qui sont hyper transformés, qui sont vendus dans des petites flasques en gel, des choses comme ça, enfin, tous ces trucs-là. Je sais pas par quel bout le prendre, en fait, moi, cette histoire-là, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, tous les deux.
Julien, tu veux attaquer ?
Tu compléteras encore ça. En fait, on sait ce qui est bon pour le microbiote, pour augmenter sa richesse et sa diversité, faire en sorte qu'il soit dans le meilleur état possible globalement en termes d'alimentation. Ça va être les fibres qu'on va retrouver majoritairement dans les végétaux, fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, etc. Ces fibres-là, elles jouent un rôle prébiotique. Elles vont aller, en gros, nourrir et stimuler la croissance de nos bonnes bactéries intestinales, globalement. Et puis, il y a une autre catégorie d'aliments qu'aiment bien notre microbiote, ce sont les aliments fermentés. Alors, ça peut être le yaourt, ça peut être également le kéfir, le kombucha, ça peut être les légumes lacto-fermentés. Quand on ingère des aliments fermentés, on va ingérer des bactéries, des levures, et on va aller enrichir notre microbiote intestinal. Et on sait que les fibres alimentaires et les aliments fermentés, ce sont les deux groupes d'aliments qui ont un impact le plus positif sur notre microbiote, qui vont l'enrichir notamment en bonnes bactéries. Et ça, on sait que ça améliore certaines capacités métaboliques, certains paramètres biologiques du fonctionnement de l'organisme. Par contre, comme tu le disais, Bertrand, et Anthony connaîtra un peu mieux ça que moi, cette alimentation-là, elle est peut-être pas idéale à un sportif de haut niveau qui va pas forcément, parce qu'on sait que les fibres, surtout en haute quantité, ça ballonne, ça peut entraîner un inconfort digestif, parfois modifier un peu le transit, les aliments fermentés un petit peu de la même façon. Et donc, c'est là où il peut y avoir une limite entre ce qui serait idéal pour le microbiote et ce qui est faisable pour une personne, et notamment pour un sportif de haut niveau. Et sachant que les gens qui ont aussi des soucis intestinaux, ils tolèrent parfois beaucoup moins bien certaines fibres, certains aliments fermentés, etc. Donc il y a un peu une limite entre les deux. Après, l'activité physique en soi, c'est-à-dire à alimentation constante, elle améliore, ça a été montré dans pas mal d'études scientifiques, elle a tendance à améliorer le microbiote, à augmenter la richesse et la diversité. Ça a été notamment montré chez des skippers qui ont fait une régate de plus de 5000 km, je pense en transatlantique, où ils ont montré qu'au bout de 3 semaines d'activité physique vraiment intense, ils avaient amélioré leur microbiote à la fin de la compétition et que les bénéfices qu'avait eu leur microbiote s'étaient maintenus dans les semaines qui ont suivi. Donc on sait que après, c'est trouver le juste milieu. Je pense qu'Anthony nous donnera sa vision, son expertise, qui connaît un peu mieux que ça. C'est trouver le juste milieu entre ce qui est faisable pour le sportif, pour une personne, même en fonction de sa tolérance, et ce qui est bon pour le microbiote.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a deux niveaux de réflexion. La première, c'est de considérer que le sportif n'existe pas. J'avais dû te donner déjà cette expression, Bertrand, dans d'autres podcasts. Mais le sportif, c'est quoi? C'est avant tout un individu qui va exercer un stress périphérique, qui est la pratique du mouvement ou de l'activité physique. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'alimentation du sportif, c'est avant tout l'alimentation d'un individu dans l'environnement dans lequel il évolue. Et effectivement, quand tu parles de fibres, Julien, de produits lacto-fermentés ou fermentés, c'est globalement un élément qui est très bénéfique pour le sportif, parce que ce sportif, avant de parler de détails de performance, il ne va optimiser ses capacités par l'entraînement que par sa réponse à cette sollicitation et donc à son état de santé de manière générale. Donc, je donne souvent aussi cette expression de cerise sur le gâteau et non pas de gâteau sous la cerise, c'est-à-dire que quand on parle de nutrition du sport, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire qu'on a mis en place tous les fondamentaux de l'alimentation santé. Et c'est ce qui va permettre à l'athlète d'optimiser ses capacités, et qu'il soit un athlète de quartier ou que ce soit un champion olympique, c'est exactement la même chose. Et après, effectivement, on va aller rentrer dans les détails, la fameuse cerise sur le gâteau, pour optimiser par rapport à une stratégie de course particulière, un environnement particulier. Donc, toutes les recommandations qu'on va donner en matière de microbiote et de santé sont bien sûr applicables aux sportifs. Après, il y a le deuxième niveau, qui est de se dire, effectivement, quel est l'impact, la contrainte lié à la pratique sportive, qui peut moduler en fait ces recommandations. Et c'est ce qui nous amène à la vision très historique qu'on a eue de la diététique sportive, avant même de parler de nutrition, dans les années 80, où on avait une vision très mécanistique finalement de la nutrition, une vision diététique, et de se dire c'est pas compliqué, j'enlève toutes les fibres avant une épreuve sportive, parce que c'est elle qui peut augmenter les troubles digestifs. Donc, je n'aurai pas de soucis digestifs et tout ira bien. Et on a vu que les choses étaient bien sûr pas aussi simples que ça, mais on y est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toute une mode actuellement sur notamment le trail ou l'ultra-endurance à aller proposer des régimes pauvres en FODMAP dans la semaine qui précède une épreuve, sous prétexte que ça va améliorer le confort digestif. Certes, sauf que les FODMAP, ce sont ces fameux glucides fermentescibles, les fibres dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, avant d'aller à cette étape d'appauvrir la nutrition, la nourriture de notre microbiote, on a heureusement beaucoup d'autres recommandations et beaucoup d'autres stratégies qu'on peut mettre en place, ne serait-ce qu'éviter des fibres irritantes mécaniques, au sens mécanique du terme, c'est-à-dire les produits céréaliers, des légumineuses, des produits qui vont être peu mûrs, la peau par exemple. Donc on peut garder une bonne diversité alimentaire, avoir un confort digestif dans les jours qui précèdent et sans aller jusqu'à arrêter ou supprimer la quasi-totalité des glucides fermentés cibles. Après, c'est une question de curseur de sensibilité intestinale. On a des athlètes qui pourraient manger tout et n'importe quoi avant une épreuve et tant mieux pour eux, au sens ils auront leur confort à l'effort et ça sera bien. Et à l'inverse, des athlètes très sensibles chez qui on va devoir avoir une stratégie très méticuleuse et effectivement faire en sorte d'identifier ce qui peut poser problème, et on peut être amené à proposer un régime pauvre en FODMAP, mais c'est vraiment pour moi une des dernières étapes. Et quand on parle d'ailleurs des glucides fermentés cibles, on parle des fibres, mais aussi de l'amidon résistant. Et quand on parle du sportif, on a un peu cette apologie, cette sacralisation des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Parce que sous prétexte que c'est l'énergie dont on a besoin, c'est l'aliment ou la catégorie d'aliments qu'on doit surconsommer. Et là aussi, on est beaucoup revenu sur le sujet et on pourra en parler très longtemps. Mais finalement, je me rappelle, moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet de la nutrition. Donc, il y a eu heureusement une forte évolution, mais on en était pendant très longtemps parfois recommandé de manger les pâtes froides, le riz froid, les pommes de terre froides, sous prétexte que ça allait réduire le pic glycémique et donc améliorer les capacités, parce qu'on avait la vision de la régulation de l'insuline. Et en fait, on connaissait finalement pas cette notion, ou peu, que ce riz froid allait aussi avoir un impact en fait sur notre microbiote, parce qu'il allait contribuer à le nourrir tout autant que les fibres fermentées cibles qu'on pouvait recommander. Donc on voit que finalement des conseils qu'on pouvait proposer historiquement ont un sens aujourd'hui autre que celui pour lequel on était amené à donner ce conseil. Mais sans rentrer dans trop de détails, parce qu'encore une fois, ça pourrait être un sujet très vaste, je pense qu'il y a deux notions à avoir à l'esprit. Il y a la notion de l'état de santé, de manière générale, et de là, quelles recommandations on peut proposer aux sportifs ou pas, quelle que soit la personne. Et après, dans la contrainte spécifique à la pratique, on a effectivement cette contrainte mécanique, et notamment chez les coureurs à pied, par l'onde de choc. Une stratégie pour un cycliste ou un nageur ne sera pas du tout le même qu'un coureur à pied, parce que cette onde de choc, elle a bien sûr un impact, ce qui nous amène à toutes les recommandations conventionnelles qu'on a proposées pendant très longtemps, d'éviter de manger au moins 3 à 5 heures avant le début de la compétition pour avoir une digestibilité qui soit maximale, d'éviter des graisses cuites, certaines fibres qu'on a évoquées, etc. Mais là, on est dans une vision très mécanique, mais qui a son sens. Et ça ne remet pas en question l'équilibre pour le microbiote. Et je terminerai juste par un dernier point, qui est cette notion du modèle alimentaire qui peut impacter la qualité du microbiote. Et ça, c'est un des plus grands facteurs de confusion qu'on a actuellement dans la littérature scientifique, à savoir que, effectivement, quelqu'un qui se met à faire du sport régulièrement il va exercer un impact sur son microbiote par l'activité physique. Et on a quelques publications qui sont très bien faites sur le sujet, qui montrent que le modèle alimentaire emprunté par un sportif en fonction de sa discipline va aussi moduler le microbiote. Et si je prends deux extrêmes, on a l'athlète d'ultra-endurance, le trailer, le triathlète, qui va manger une dominante de glucides, y compris cet amidon résistant dont on parlait. Donc ça va moduler la composition de son microbiote, non pas par la pratique, mais par le modèle alimentaire qu'il emprunte par rapport à ça. Et à l'inverse, on va voir la personne qui fait de la musculation, la prise de masse musculaire, qui va être à manger beaucoup de protéines, et ce ratio de protéines dans le modèle alimentaire va influer sur l'évolution des bactéries dans le microbiote. Donc c'est toute la question de se dire, est-ce que finalement c'est le modèle alimentaire du sportif qui l'amène à modifier son microbiote, ou est-ce que c'est la pratique en tant que telle? Et là, les données toutes récentes nous disent qu'il y a des deux. Et notamment, on voit qu'il y a une forme de prédisposition des athlètes et donc potentiellement du microbiote à répondre à certaines pratiques sportives. Et également, bien sûr, ce qu'on mange va moduler le microbiote qui lui-même va jouer un rôle sur notre performance en tant que telle.
Bon, c'est compliqué ces histoires quand même, parce que moi, dans mes notes, j'ai mis des trucs et avec deux questions qui me tarabusquent, parce qu'il y a des trucs, je ne sais pas comment ça me passe comme ça. Tout à l'heure, on a parlé de glucides, on a parlé de sucre, on a parlé... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a une obsession, parce que j'en ai parlé avec plein d'invités dans le podcast, sur la quantité de glucides à l'heure quand on court, quand on fait du vélo, quand on prend... Ça monte de plus en plus haut. J'ai eu des 90, j'ai eu des 120, j'ai eu des 140. Tout. Je me suis dit, oh punaise, mais ça en fait. Et des fois, tu sais, j'essaye de compter en gel, me dire, mais ça, comme, ils en prennent combien toutes les 10 minutes, etc. Je me dis, mais il y a une espèce de montée comme ça et tout. Et je me demandais, et c'est une question que j'ai mise dans les notes, et je ne sais pas si, après, si vous n'avez pas la réponse, vous me dites, hein, dites-en, mais est-ce qu'il y a un lien entre notre microbiote, comme il fonctionne, et la richesse qu'il a, et la gestion, par exemple, de la glycémie, de comment on est capable notre corps gère la glycémie, par exemple, les questions d'insuline, etc. Il y a des liens entre tous ces éléments ?
Alors, je commence peut-être, on inverse un peu. Oui, bien sûr qu'il y a des liens. Alors là, on sort du cadre purement sportif en tant que tel, mais on sait que le microbiote est un élément central dans la réponse insulinique. On a énormément de données aujourd'hui chez les personnes diabétiques de type 2, chez les personnes obèses, de manière générale chez les personnes insulino-résistantes, où on constate effectivement une dysbiose intestinale qui va jouer un rôle sur la réponse en fait à la régulation à l'insuline. On parlait de pesticides dans l'introduction tout à l'heure. On sait que les contaminants vont jouer un rôle sur les risques d'insulino-résistance par modulation du microbiote. Quand on consomme des polyphénols qui sont présents dans les fruits et les légumes dont on parle depuis tout à l'heure par rapport aux fibres, en fait, ces polyphénols sont des composés qui doivent être métabolisés par le microbiote et ce sont ces métabolites qui vont jouer un rôle sur la sensibilité à l'insuline. Il y a des études intéressantes qui sont faites sur des petites cohortes, mais qui montrent que, en fait, la nature du microbiote va plus influer sur la réponse glycémique que le fait de consommer un pain blanc ou un pain complet, par exemple. Alors que la recommandation classique, c'est de dire, prends un pain complet, puisque tu auras des fibres, tu diminueras ton pic glycémique, et c'est le cas. Mais la modulation par le microbiote représenterait un facteur, je mets du conditionnel, parce que c'est des études encore sur des petits échantillons en tant que tels, mais qui montrent quand même qu'il y a une interaction qui est systémique. Et j'en parle un petit peu dans le livre, il y a une hypothèse évolutionniste à ça, qui est que l'insulino-résistance qui pourrait être créée par une dysbiose intestinale serait un moyen en fait de lutter contre certaines bactéries ou certains micro-organismes pathogènes. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que là aussi ça demanderait du temps, mais je l'aime beaucoup parce que elle nous renvoie complètement à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que on est un écosystème dans un écosystème et que finalement s'il y a une évolution du microbiote qui va se traduire par un trouble fonctionnel ou une pathologie chez l'homme, c'est aussi peut-être parce que c'est une réponse à un déséquilibre plus global. Et ça nous amène encore et toujours à cette notion d'humilité. Et ça, je crois que c'est quand même le sujet de fond, surtout quand on touche au vivant, le nôtre, mais à celui du microbiote. Donc voilà, pour faire un peu rapide, mais pour peut-être aussi rebondir sur ta remarque de départ vis-à-vis des quantités de glucides. Aujourd'hui, tu as même des publications qui vont jusqu'à 180 grammes par heure de glucides. Donc effectivement, si tu le compares à des gels ou autres, ça fait un certain nombre de gels par heure, parce qu'on est dans cette vision, encore une fois, très très énergétique, très calorique, de se dire, sous prétexte que si j'épuise mon stock de glycogène musculaire, je vais être en hypoglycémie, j'apporte le maximum de glucides à l'effort pour retarder mon glycogène et l'épuisement de mon glycogène et donc retarder le risque d'hypoglycémie. C'est vrai, sauf que on est dans une vision partielle en fait de la réponse du métabolisme énergétique. Et sans rentrer dans le sujet parce que c'est un autre sujet que le microbiote, mais effectivement on peut se poser la question de l'incidence d'une alimentation hyperglucidique sur le microbiote qui lui-même va jouer sur la performance de manière générale. Et les premières publications qu'on a eues sur le sujet ont été faites chez des souris et ont montré que les souris qui sont taxéniques, c'est-à-dire à qui on a enlevé le microbiote, ont moins d'endurance musculaire. Et on s'est rendu compte que, en fait, les bactéries qui étaient présentes dans l'intestin vont produire des composés qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont les acides gras à chaîne courte. Et ces composés représentaient des sources énergétiques secondaires à l'effort qui permettaient d'épargner le stock de glycogène musculaire et donc de retarder la fatigue musculaire chez ces souris-là. Et c'est un peu les tendances qu'on est en train de constater chez l'homme. Il y a une publication très connue qui a été faite au cours du marathon de Boston il y a quelques années, où justement on a isolé une bactérie particulière qui était beaucoup plus présente chez les marathoniens, et notamment chez les marathoniens qui étaient performeurs, hein, qui étaient de bon niveau. Et cette bactérie a cette capacité non seulement de recycler un petit peu plus l'acide lactique. Donc ça, c'est un premier point qui a été mis en évidence. Et la deuxième, c'est de produire ces fameux ces fameux acides gras à chaîne courte, et qui, alors on met du conditionnel, parce qu'encore une fois, c'est des données qui sont récentes, mais pourraient finalement compléter le besoin énergétique au cours de l'effort. Donc si on provoque un petit peu, est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à chouchouter notre microbiote pour qu'il soit une bonne source d'énergie au cours de l'effort, qu'aller le traumatiser avec 120 grammes ou 150 grammes de glucides par heure pendant 10 ou 20 heures, quoi. Caricature un peu, mais...
Et d'ailleurs, quand on donnait à ces souris cette fameuse bactérie isolée chez les marathoniens, les souris couraient plus longtemps et se fatiguaient moins. Donc ça, voilà, et notamment en métabolisant cet acide lactique qui parfois pose des soucis aux sportifs. Et juste pour terminer en fait là-dessus sur un exemple qui est assez parlant, on va sortir un petit peu du sportif de haut niveau et qui va aller dans ton sens sur le fait que le métabolisme énergétique est variable en fonction des gens, et le microbiote intestinal participe à ces différences entre les individus de leur métabolisme énergétique. Il y a un exemple qui est en fonction du moment, de la condition, du contexte, c'est la grossesse. Il y a une étude très intéressante qui a regardé le rôle du microbiote intestinal de la femme enceinte, notamment dans ce que tu disais sur la sensibilité à l'insuline, sur le poids et sur le métabolisme énergétique. Et ce qui est très intéressant, donc dans cette étude, ils ont pris le microbiote de femme enceinte en début de grossesse, le microbiote de femme enceinte en fin de grossesse. Ils l'ont donné à des souris axéniques, donc des souris sans microbiote. Et ils ont donné à ces souris une alimentation identique dans les deux groupes. Et ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est qu'en fait, les souris qui avaient récupéré le microbiote des femmes en fin de grossesse se mettaient à grossir, à devenir obèses et à développer une insulinorésistance et quasiment un diabète, un pré-diabète. Et la nature faisant bien les choses, j'ai tendance à penser que cette modification du microbiote au cours de la grossesse, elle est là, alors peut-être pour préserver des infections, comme tu le disais, mais peut-être aussi tout simplement en permettant à la femme enceinte d'extraire plus de calories, plus d'énergie avec une même alimentation, et donc de nourrir son bébé sans avoir à manger pour deux. Puisqu'en fait, on n'a pas tous accès à une alimentation un petit peu infinie comme on a en Occident. On a juste à aller au supermarché à faire nos courses, on peut acheter tout et n'importe quoi. Il faut voir que dans le monde entier, au-delà de parler de famine, mais parfois les conditions, l'accès à une alimentation équilibrée et adaptée, voire importante, elle n'est pas forcément la même. Et donc peut-être ça peut permettre à l'ensemble des femmes de nourrir et de faire grandir leur bébé sans avoir à manger pour deux.
Et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis à ce niveau-là, qui est passionnant, et notamment par rapport aux édulcorants. En fait, on a constaté il y a une bonne dizaine d'années maintenant que les édulcorants, en particulier la acésulfame de potassium, l'aspartame, etc. Bon, il y a pas mal d'édulcorants, on ne va pas tous les citer ici, mais avaient un impact sur la diversité du microbiote chez la souris, ce qui générait une insulinorésistance et donc qui allait à l'encontre de l'objectif pour lequel on prenait des édulcorants, c'est-à-dire éviter la prise de poids ou l'insulinorésistance. Et ça a été largement conforté chez l'homme. La première publication dans Nature date de 2014, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Chez l'homme, on a même des méta-analyses qui le confirment, et notamment chez la femme enceinte, on voit que effectivement on développe une insulinorésistance chez le nourrisson lorsque la maman va consommer des grandes quantités d'édulcorants, et donc en lien avec en particulier cette notion de microbiote. Donc c'est aussi passionnant qu'effrayant. Et si on en revient à ce sujet du sportif sur Vélonella atypica, donc qui est la fameuse bactérie dont on parlait par rapport à ces marathoniens et autres, on a une tendance aujourd'hui qui est de constater que c'est des bactéries qui sont capables de résister dans des moments, notamment Prevotella, qui est une, alors on la rencontre un peu dans le détail des types de bactéries ou autres, mais qui est capable de résister dans des conditions un petit peu extrêmes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta remarque, Julien, sur les conditions, c'est-à-dire que finalement, est-ce que le sportif n'aurait pas un microbiote capable de mieux supporter des situations extrêmes, comme peut l'être la pratique sportive de haut niveau au moment d'une course particulière, qui, de ce fait, rendrait l'athlète plus performant. Mais est-ce que c'est pour autant bénéfique pour sa santé? Ben voilà, ça c'est la question de fond, mais voilà, je trouve intéressant de voir toute cette complémentarité en fait qu'on peut avoir entre des choses qu'on isole un peu et qu'on trouve intéressantes, mais qui deviennent passionnantes quand on les relie entre elles, quoi.
Donc on en revient un petit peu à ta question, Bertrand, de microbiote idéal, qui serait peut-être celui en fait qui permet à l'organisme, à son propre organisme, de vivre avec la meilleure santé possible, avec son mode de vie, avec son alimentation, avec tout ça. Donc c'est en fait avoir le microbiote qui soit adapté à ce qu'on mange, à la vie qu'on mène, etc. Mais sauf que un peu c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est illusoire de vouloir avoir un microbiote qui soit parfaitement adapté à une alimentation ultra transformée, une sédentarité, etc. On sait que tous ces facteurs-là et l'exposition à des polluants, contaminants, etc. On sait que ça c'est un impact très négatif sur le microbiote et qu'en aucun cas ce microbiote-là sera à même de nous aider à vivre en bonne santé longtemps. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir, je pense, le meilleur mode de vie et la meilleure alimentation pour avoir un bon microbiote riche, diversifié, etc., qui sera peut-être plus propice à être adapté ensuite à notre activité. Et puis en fait, les choses vont aller, l'organisme va s'adapter à ce qu'il va manger, au sport qu'il va faire, et tout ça, ça va, voilà, c'est, l'organisme est capable de s'adapter. Il est illusoire de vouloir changer, enfin, de tout au tout, en se disant, voilà, demain, je vais me mettre à, enfin, ça, c'est quelque chose, c'est des processus qui se mettent en place progressivement, et en général, l'idée, c'est d'être sur un cercle vertueux, d'avoir un mode de vie sain, une alimentation saine, adaptée à son mode de vie, et en même temps, avoir un mode de vie le plus sain possible, etc. Et après, quand on parle du sportif de haut niveau, on est sur des cas particuliers, et je pense qu'un sportif de haut niveau qui se pose ces questions-là, bénéficierait d'un accompagnement par des gens comme toi, Anthony, parce que après, on est sur du cas particulier et on va au-delà des recommandations générales qui sont faites pour le commun des mortels, quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est là où je parle de la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire déjà s'assurer que les fondamentaux soient bien établis. Et là, tout professionnel compétent est en même, en fait, hein, d'assurer ces recommandations. Et après, on va rentrer dans le détail. Mais malheureusement, c'est vrai que dans le monde du sport, on aime bien la solution miracle. Le petit truc qui va faire que, et voilà, tu parlais des gels, Bertrand, c'est un exemple hein, parmi d'autres. Bon, là on est sur une logique énergétique, mais c'est vrai que on est très friand en tant que sportif de la semaine en carbone, etc. Bon, si on sort du cadre du sportif, mais de la nutrition, mais c'est similaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, les médias parfois vont s'approprier une donnée qui a été donnée dans un contexte très précis pour en faire une généralisation et ça m'étonnerait pas qu'on voit le modèle alimentaire du sportif pour le microbiote dans quelques temps avec tel ou tel aliment, etc. Parce que, ça, on aime bien croire à ça, quoi. Alors que la base, et c'est ce que tu évoques depuis le début, Julien, c'est-à-dire quand on parle de fibres, fermentées cibles, de fruits, de légumes, de légumineuses, de produits complets, etc. C'est pas quelque chose de miracle en soi, et c'est pourtant ça qui va, dans la plupart des cas, déterminer les performances d'un athlète. Et ça, ça vaut encore une fois qu'on soit un athlète de très haut niveau ou quelqu'un qui reprend juste de l'activité physique après X années de sédentarité. Et pour peut-être aussi boucler la boucle de l'échange me concernant là-dessus, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chez les jeunes enfants en particulier, la pratique de l'activité physique a un impact bénéfique justement sur la diversité du microbiote. Donc, on le sait aujourd'hui, hein, notre population, elle est beaucoup trop sédentaire, les adultes, mais aussi les enfants. Et c'est encore plus inquiétant pour l'avenir qu'en tant qu'adulte, en tant que tel. Donc, d'aller recommander à un enfant de bouger, ce pourquoi on est programmé depuis extrêmement longtemps, et ben au-delà des bénéfices santé qu'on connaît, c'est déjà prendre soin du microbiote. Donc, c'est des choses simples, mais qui sont juste essentielles. Donc, c'est bien de les rappeler, je pense.
Oui, mais en fait, on semble oublier. Alors, ce week-end, j'étais un peu. J'ai revu le documentaire de Netflix sur les zones bleues. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire. Il va explorer les zones bleues. Ils demandent si on peut les recréer, celles qui sont en train de disparaître. Okinawa, Costa Rica, qui disparaissent et tout. On a l'impression, parce qu'on perd un peu le lien avec les trucs de base, en fait, dont on parle. Parce que finalement, tout à l'heure, tu me dis, vous mangez des légumes, bougez. Enfin, vous n'avez pas parlé de sommeil. Non, il y en a un qui m'a parlé du sommeil, ou pas encore, je ne sais
Ben
pas.
j'allais évoquer, mais je te laissais parler.
Ouais, mais enfin, ce truc-là, ça paraît tellement ancestral, j'allais dire, tu vois. Et là, je fais un petit clin d'œil au livre d'Anthony. Ce truc-là de revenir, ça fait très chasseur-cueilleur, cette histoire-là. Et sans vouloir être paléo ou quoi que ce soit, je veux dire, ça paraît tellement juste revenir à un truc qui paraît tellement des milliers d'années en arrière que dans notre monde où on cherche toujours la technologie, ça ressemble pas à une solution, en fait, ce que vous me proposez. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, toi, mais si tu dis ça à tes patients, tout à l'heure tu parlais, on cherche les médicaments, les trucs. Moi, je veux sortir de ton bureau, tu me dis, ah, ça y est, vous êtes guéri, quoi. C'est pas si rapide que ça, quoi.
Et maintenant, il faut revenir sur des choses simples et naturelles, donc avec un rythme de vie également plus sain. On a dit le stress est délétère sur énormément de choses, y compris sur le microbiote. Le sommeil est bénéfique sur beaucoup de choses, y compris sur le microbiote. Et à l'inverse, le microbiote, autant dans certains cas, peut améliorer les performances sportives. Mais il y a des études qui montrent que notre sommeil est lié également à l'état de notre microbiote et que certains microbiotes aurait plus de facilité à entraîner un bon sommeil, plus réparateur, etc. Enfin, c'est souvent dans les deux sens. C'est pour ça que c'est souvent des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Et l'idée, c'est de casser, souvent, en tout cas pour les gens que je vois, un cercle vicieux et de les entraîner vers un cercle vertueux où le mode de vie joue un rôle vraiment important. Et l'alimentation est, on l'a répété un certain nombre de fois, mais un des facteurs qui a le plus d'impact sur notre microbiote et sur lequel on peut jouer. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'environnement, mais ce qu'on mange, on peut le maîtriser un maximum. Donc l'idée, c'est d'être le plus actif là-dessus. Pareil pour le sommeil, pour l'activité physique régulière. C'est des choses qu'on peut mettre en place, mais encore faut-il le vouloir plutôt que d'espérer que quelqu'un trouve une pilule miracle qui va faire tout rentrer dans l'ordre, parce que pour l'instant, ça n'existe malheureusement pas.
Et je rebondis sur le petit clin d'œil. Merci Bertrand pour le livre. Et pourquoi? Parce que le titre du livre, c'est du bon sens dans notre assiette. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on est à rechercher dans la littérature scientifique la plus récente des arguments pour simplement revenir à ce qui nous paraît du bon sens depuis très longtemps, voire celui de nos parents, arrière-grands-parents, etc. Donc là. Pour ce livre, j'avais plus de 2000 publications qui ont été citées. Donc, c'est tout un travail de recherche de littérature, mais pour arriver à des conseils qui peuvent paraître extrêmement simplistes. Et quand on parlait du sommeil à ce niveau-là, j'en reviens aussi à une notion qu'on a déjà abordée dans un podcast, qui est la notion du rythme circadien et de notre rythme, nous, en tant qu'animal diurne, c'est-à-dire que on est fait pour vivre le jour et pour dormir la nuit. Et on sait qu'on est particulièrement sensible à des longueurs d'onde au niveau de la lumière. On peut parler des longueurs d'onde rouges, proches infrarouges, des longueurs d'onde bleues, etc. Mais on a deux grands systèmes d'horloges biologiques, l'horloge biologique centrale, donc qui est présente au niveau cérébral, et les horloges biologiques périphériques. Et notamment, ces horloges sont très présentes dans les organes du système digestif. Le foie est vraiment celui qui possède l'horloge biologique la plus impactante parce que c'est lui qui centralise un petit peu tout ce qu'on mange, qui va transformer en glucides, en graisse, etc. Donc c'est logique. L'intestin également a une horloge biologique et on a un certain nombre aujourd'hui de publications qui montrent que notre microbiote a lui aussi son rythme circadien. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, je caricature un peu, mais pas le même microbiote le soir que le matin. C'est-à-dire qu'on a des variations et des amplitudes de composition au niveau de ton microbiote. Et tu parlais de la glycémie tout à l'heure et ta question sur l'insulinorésistance. On a une cohorte notamment chez des personnes diabétiques qui ont montré que les personnes qui avaient une faible amplitude circadienne du microbiote étaient les personnes qui développaient le plus d'insulinorésistance. Donc ça montre encore une fois le lien très étroit entre le microbiote et notre organisme, mais entre le microbiote et son propre environnement à lui dont on fait partie. Et c'est pour ça que cette notion d'holobionte, je la trouve passionnante, parce que elle nous ramène à ce que nous sommes, c'est-à-dire un organisme dans un écosystème. Et on a tendance à considérer que l'homme est au-dessus de tout, et je pense que plus on avance, plus on se rend compte que on a intérêt à faire un peu plus de preuve d'un peu plus d'humilité à ce niveau-là. Mais on voit que le microbiote est dépendant de nous, certes, mais nous, on est aussi complètement dépendant de lui pour notre santé, et dans un environnement dans lequel on évolue chacun depuis, effectivement, sans parler de la nuit des temps, mais au minimum depuis quelques centaines de milliers d'années si on parle d'Homo sapiens, voire de 2 milliards d'années si on parle de structures eucaryotes, etc. Donc, je reviens toujours à cette notion d'humilité, parce que je pense que c'est ce qui me paraît essentiel, et revenir à des conseils effectivement de bon sens, de dire à quelqu'un de bouger, de faire une activité, de manger des produits bruts, des produits de saison, avec le minimum d'intrants, d'avoir un sommeil de qualité, d'avoir une gestion des émotions la plus adaptée possible. On réinvente pas la roue, on fait pas de promesses miracles, et pour plein de raisons qu'on connaît pas encore, pourtant on sait que c'est une solution qui est sans doute la plus adaptée pour prendre soin de nous, quoi. Avec bien sûr des variations en fait en fonction de l'individu, mais ça c'est le rôle du professionnel, c'est justement de pouvoir adapter des recommandations de base à l'individu en fonction de la pathologie qui présente, du trouble, de son objectif sportif si on parle du sportif. Mais on en revient encore et toujours à cette logique de cerise sur le gâteau et non pas de gâteau sous la cerise, quoi.
Et surtout que j'avais une question, et qui concerne Julien notamment, je pense, parce que tu dois avoir plein de cas en fait de gens qui viennent, qui ont des douleurs ou je sais pas, tout ce qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que moi, sur les réseaux, quand il y a des gens qui disent oui, il faut manger des fibres et tout, ils disent ah, mais moi je digère pas ça, moi j'arrive pas à digérer ça, dès que je mange je sais pas, des fruits, ça me fait ça, dès que je mange des fibres, ça me fait ça et tout. On n'est pas tous égaux, en tout cas, dans sa relation à ce qu'on peut manger, comment on le digère, comment notre corps réagit. Il y a des gens qui vont écouter ça et on dirait, mais moi, si je commence à manger un peu de fibres, c'est quoi, c'est 35 grammes de fibres par jour, hein, qu'il faudrait manger?
Moi déjà 25 à 30, c'est, non, 25 à 30, mais déjà 30, enfin, c'est déjà pas mal. On consomme, ouais, en France et partout dans le monde occidental, moins de 20 grammes de fibres, largement. Donc, ouais, on a un peu de marge.
Et il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, si je vais dans les recommandations, là, j'ai l'impression que mon ventre, il ne suit pas. Comment je fais pour équilibrer tout ce qu'on vient de dire, et si j'ai l'impression que mon corps ne suit pas?
C'est normal, parce qu'en fait, malheureusement, on s'est désadapté de ce genre d'alimentation. On a tous consommé massivement des produits ultra transformés, industriels, en nous vendant les mérites qu'on a eu sur chaque pub, nous dire que tel ou tel produit c'était bon pour notre santé, alors que maintenant quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est une catastrophe. Il y a des choses qui sont perturbateurs endocriniens, d'autres cancérigènes, d'autres, etc. Et ça, c'est encore en vente, et c'est ce qui nourrit la plupart de la population. Donc il est illusoire de penser que quand à un moment on a mangé ce genre de choses pendant des années, voire des décennies, eh ben, on va tolérer des choses qui sont censées être saines pour notre organisme, parce que notre organisme, il est plus adapté à ça. Parfois, il s'est créé une hyperperméabilité intestinale, on l'a évoqué tout à l'heure. Parfois, il y a même de l'inflammation qui persiste dans la sphère intestinale, la sphère digestive, et que ces aliments qui sont des aliments sains, ne vont plus être tolérés et déclencher des ballonnements, des douleurs, etc. Ce qui est pas normal, en fait. C'est qu'en fait, on a inversé les choses sur ces dernières décennies, et notamment avec l'alimentation industrielle, les produits ultra transformés bourrés d'additifs. On sait que la plupart de ces additifs, pris séparément, ont un impact négatif sur le microbiote, notamment les émulsifiants qu'on retrouve dans énormément de produits industriels, les gâteaux, les mayonnaises, les glaces, etc. Ces émulsifiants vont détruire en partie la paroi de l'intestin, vont altérer le microbiote intestinal, créer de l'inflammation et être propice à une moins bonne santé, à des maladies. Donc effectivement, après, eh ben ça prend du temps à revenir sur une alimentation plus saine. Comme l'a évoqué Anthony, ben on va pas forcément aller d'emblée sur une consommation importante de légumineuses, de céréales, etc., qui vont être potentiellement un peu plus irritantes que d'autres types de fibres. Et encore une fois, il faut, dans ces cas-là, on est sur du cas par cas, et se faire accompagner de diététiciens, nutritionnistes, etc., qui vont essayer de voir comment ramener l'individu vers une alimentation plus saine, plus propice à une amélioration de son microbiote, plus propice à une meilleure santé. Mais ça, effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est triste de voir les gens qui maintenant, certains peuvent manger un McDo, d'autres fast-food ou des biscuits industriels et ne se plaindre de rien. Et puis mal tolérer une alimentation saine, un plat qui sera très qualitatif. C'est dommage d'en être arrivé là, puisqu'en fait, je pense qu'il y a quelques décennies, c'était pas le cas. Et donc, ouais, l'idée, c'est de réhabituer les gens très jeunes. Un microbiote, ça se construit dans l'enfance, dans la petite enfance et même pendant la grossesse. Et donc, l'idée, c'est de casser ce cercle vicieux qui a été mis en place sur certaines décennies. On a détruit de la biodiversité animale, de la biodiversité environnementale. On a détruit de la même manière de la biodiversité microbienne. Et tout ça, c'est propice à une moins bonne santé pour l'ensemble. Voilà, on rejoint le concept One Health, d'une seule santé, où toutes ces santés sont intriquées là. Et que nous, si on veut que l'humain revive mieux en bonne santé plus longtemps, eh ben, il va falloir remettre un petit peu, effectivement, du bon sens dans notre assiette et du bon sens dans notre vie de tous les jours.
Je donne un petit exemple par rapport à ta question sur la réintroduction des fibres et en général des légumineuses, produits céréaliers, etc. Ça devrait parler à tes auditeurs, Bertrand, c'est-à-dire que dans le monde du sport, tu vas pas te mettre à faire un marathon ou un Ironman du jour au lendemain alors que tu as été sédentaire pendant 20 ans. Ben là, c'est la même chose pour le microbiote. On va pas lui demander de devenir un Ironman microbien en tant que tel, j'en plaisante, mais au sens où ben effectivement, il a été désadapté pendant très longtemps, comme on a pu l'être à l'activité physique en étant sédentaire pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et donc, on va reprendre une activité progressive en fonction de notre propre ressenti, en fonction de notre évolution. On va pouvoir augmenter la charge d'entraînement pour effectivement arriver à faire 1 heure de footing et puis un marathon et pourquoi pas davantage. Donc, au niveau des fibres et d'un certain nombre d'aliments pour le microbiote, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va y aller en douceur, de manière progressive, pour faire en sorte qu'on retrouve une harmonie, si ce n'est égale à celle qu'on pouvait avoir il y a quelque temps, au moins qui s'en rapproche le plus, exactement comme l'activité physique, en fait.
Bon, bah écoutez, messieurs, en tout cas, je pense que le message est passé. Et comme quoi, ce qui montre que pour le microbiote, comme pour le reste du corps, hein, si on n'en fait pas, si on ne l'utilise pas comme on pourrait l'utiliser, on se désadapte et on perd des capacités par la non-utilisation, adaptée à ce qu'on était capable de faire. Bref, j'ai l'impression qu'on vient toujours à la même conclusion. Quoi que je fasse comme épisode, je me retrouve toujours avec les mêmes conseils sur cette notion d'adaptation, désadaptation, d'entraînement progressif, de progressivité, etc. Bon, alors on avait plein d'autres questions
Mais on n'a
sur la.
pas répondu à ta question, Bertrand. On n'a
Ben
pas
non, mais tu
répondu à la
sais,
question
mais on
de
la
qui?
garde sur le prochain épisode, parce que comme on n'a plus le
Ah bah, très
temps, on fait un deuxième épisode sur le truc.
bien.
Moi, j'ai quand
Génial.
même une petite question de me dire, finalement, je ne sais pas si c'est chez Kylian Jornet qu'il faut que j'aille choper un bout de caca, me faire transplanter, mais. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille chez les marathoniens qui, à Boston et compagnie, alors même si le recordman du monde est mort, peut-être que c'est lui qui avait la meilleure bactérie de toutes. Ça, je ne sais pas si c'était étudié, mais on répondra à ça à un prochain épisode parce qu'il y a énormément de choses sur microbiote et sport, les relations. On en a abordé un petit peu sur l'histoire. J'ai mis un truc, est-ce qu'on peut muscler son microbiote pour mieux performer? Grande question, mais je pense que tu as répondu un petit peu, Anthony, quand même. Sur une partie, tous les deux, vous avez un petit peu donné des éléments. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on va aborder. Mais par contre, je ne pourrais pas finir cet épisode sans que les gens puissent vous retrouver, se renseigner. Parce qu'en plus, bon, Julien, tu partages tellement de contenu régulièrement et tout. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Déjà, on va commencer par Julien, hein? Et puis, n'oublie pas de parler de ton bouquin, etc. Et puis ensuite, on passera à Anthony. Où est-ce qu'on vous retrouve, comment on peut suivre, comment on peut apprendre des choses grâce à vous?
Alors, la première chose, c'est les réseaux sociaux. LinkedIn, qui est un peu plus adapté, on va dire, aux professionnels de santé et de la nutrition au sens large. Et pour le grand public, vraiment pour tout le monde, il y a du contenu que j'essaye de le plus pertinent possible sur Instagram, où il y a voilà, 3 posts par semaine en général autour du microbiote et de notre santé. Donc ça, c'est avant tout voilà, les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, mon livre Incroyable Microbiote, qui est sorti maintenant en 2022. Et qui est un ouvrage assez complet et assez à la portée de tout le monde normalement sur voilà bah, ces liens entre microbiote intestinal et santé.
Avec plein de couleurs, des dessins. Je t'avais félicité sur les dessins, les
Voilà.
couleurs et tout, je me rappelle.
C'est gentil. Enfin, c'est pas moi qui les ai faits, mais j'ai fait en sorte de travailler avec une illustratrice qui me fasse des très beaux dessins et qui, parce que parfois un beau dessin vaut mieux que 1000 mots ou pas mal de mots. Donc l'idée c'était qu'il y ait tout ça, que le livre soit agréable, facile à lire et que du coup et fasse passer les messages.
Ouais, bon, dans le livre de Julien, il y a moins de dessins, mais il y a un brocoli sur la couverture. On avait parlé dans l'épisode précédent de la raison pour laquelle il y avait les brocolis, d'ail et compagnie. Donc, je vous laisserai aller écouter dans l'autre épisode. Mais par contre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des trucs qui sont en train de se lancer, qui sont en train de préparer des choses là?
Non,
Anthony?
tu étais toujours avec moi? Ah
Ah,
non,
pardon,
Anthony,
non,
pardon.
Anthony!
Ah oui, ah, oui j'attendais patiemment. Donc non, je croyais que vous parliez du livre de Julien, et que je confirme, je peux que recommander parce que t'as la capacité à vulgariser cette information avec les illustrations et autres et à toucher justement beaucoup de personnes. Ça, je trouve ça génial. Bah, c'est donc le rappui dessus sur la recommandation. Me concernant, alors juste avant, par rapport au dopage, et tu parlais de transplantation fécale de Kylian Jornet, il y avait un article de L'Équipe il y a quelques années qui posait la question de savoir si la transplantation ne serait pas le dopage du futur. Donc on en reparlera effectivement
Non, pas grave.
dans l'autre podcast, mais dans l'autre épisode. Mais en tout cas, il y a déjà des journalistes qui se sont posé la question. Donc bah, de mon côté, on a déjà parlé des deux livres qui sont sortis l'année dernière, du Bon sens dans l'assiette, qui est plutôt orienté tout public, donc qui va aborder à peu près les mêmes sujets que le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, qui lui est plus conséquent, qui est plus orienté vers des professionnels ou des gens qui sont très avertis et qui cherchent à comprendre en détail un certain nombre de mécanismes autour de l'alimentation. Alors, je suis présent sur les réseaux sociaux aussi, mais beaucoup moins que Julien, donc ça peut être le cas, et j'ai deux grosses actualités là qui sont en train de d'émerger. J'ai un organisme de formation qui avant était en présentiel, et on est en train de basculer la plupart des formations en modèle hybride, c'est-à-dire du e-learning, mais également du présentiel et des classes virtuelles. Donc ça va sortir dans quelques temps. J'ai un blog qui s'appelle santé-nutrition.com sur lequel vous pourrez trouver les infos si vous le souhaitez. Et puis j'ai un algorithme de diagnostic nutritionnel qui s'appelle Olisane, qui est aussi en train de sortir et dont j'aurai, j'espère, le plaisir de parler à une autre occasion, mais qui pour moi est le fruit aussi de beaucoup de travail. La première version date de 2009, donc ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Donc je suis très heureux qu'on ait cette version-là qui sorte bientôt. Donc je suis en plein dans mes actualités du moment. Ouais.
Et je dois le dire, parce que j'ai regardé tes formations il n'y a pas très longtemps, tes formations en présentiel, etc., pour ceux qui veulent se former. Et la journée, elle n'est pas très très chère. Hein. Je ne sais pas si je dois le dire, parce qu'après, tu vas augmenter les prix. Mais pour ceux qui veulent se former, je veux dire, non, mais c'est vrai, elle est accessible. Je veux dire, pour des gens, grand public, un peu avertis, qui veulent aller plus loin, qui veulent se former et tout, tu as quand même des programmes. En plus, il y en avait un peu partout. Puis là, tu viens en hybride, donc à distance et tout. On peut accéder à la connaissance. Vos livres sont très abordables en prix. Bon, même si le traité de la pleine santé, il faut le dire quand même, c'est un sacré pavé, c'est quand même sur un livre qui est quand même plus élevé en tarif. Mais les autres livres sont des prix très abordables. Mais même accès à ta formation et tout, c'est pas un truc hors de prix, quoi. Ça reste très accessible pour ceux qui voudraient aller plus loin, creuser ces sujets-là qui sont vraiment intéressants et sur lesquels c'est vraiment des éléments de futur, on en a parlé, qui sont vraiment à creuser, vraiment à creuser, sur lequel on en apprend tous les jours. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, bien sûr, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode hein, pour aller retrouver tout ça, les livres, les sites internet, les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve ben, bientôt parce qu'on a quand même cette fameuse réponse. Hein. Quel microbiote faut-il que je me fasse Je vais m'entraîner avant quand même. Hein. Parce que avant, et ça se trouve un jour, il va être pris dans un scandale de dopage type vélo du Tour de France il y a 10-15 ans, on ne sait pas. Hein. En attendant, il est toujours là. On répondra à cette question-là dans un autre épisode. Et puis, il y avait plein de sujets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Donc, c'est pour ça qu'on fait une deuxième partie, parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup trop. J'ai vu un peu gros. Je suis d'accord, j'ai vu un petit peu gros sur les choses. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite à tous les deux, une belle journée. Je vous souhaite aussi à tous, auditeurs, une belle journée, une belle semaine. On se retrouve très vite pour continuer d'explorer tous ces sujets autour du sport, de la nutrition, de la santé, de comment est-ce qu'on arrive à être en bonne santé, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire du sport, à bouger. Et on a compris à quel point ça pouvait avoir des répercussions jusqu'au fin fond de nos cellules, de notre corps. Merci, merci.
Merci beaucoup.
Merci, salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.